Audio.
Altitude. Simon Matédoré.
Le temps entre 1850 et le début de la Première Guerre mondiale, c'était un grand essor du tourisme en Suisse. La Suisse est un peu comme le Dubaï d'aujourd'hui ou quelque chose. Il y avait tout qui était possible.
Bonjour et bienvenue dans Altitude qui vous emmène cet après-midi dans un des joyaux de l'hôtellerie de montagne niché au cœur de la Haute-Engadine dans le canton des Grisons bien sûr, juste au-dessus d'un petit village qui fut cher entre autres à Nietzsche et à d'autres grands esprits. Ce joyau, c'est l'hôtel Waldhaus de Sils Maria, ouvert en 1908. Il est l'un des rares hôtels 5 étoiles de Suisse qui soit encore exploité par la même famille depuis sa création. Carl Gustav Jung, Marcel Proust, Albert Einstein, Joseph Beuys ou encore David Bowie y ont séjourné. On y a tourné des films. Son histoire est donc tout à fait formidable et Joël Rebeté, qui s'est rendu sur place, va nous la faire entendre. Ce sera dans quelques minutes. L'hôtellerie de montagne, elle est née dans les Alpes au milieu du 19e siècle avec l'arrivée des premiers touristes anglais en Haute-Engadine et aussi bien sûr à Zermatt. On en parlait il y a quelques semaines. Que représente-t-elle aujourd'hui cette hôtellerie? Quel est son avenir peut-être à l'heure où l'on nous parle de plus en plus de tourisme 4 saisons pour contrer les effets du réchauffement climatique? Notre invité aujourd'hui est une toute grande spécialiste du domaine. Bonjour, Evelyne Lutigraf. Bonjour.
Bonjour, Simon.
Merci d'être avec nous jusqu'à 18h en ce dimanche pascal. Vous êtes la directrice des archives hôtelières suisses. Archiviste, historienne donc, Evelyne Lutigraf, c'est votre métier ou votre formation de base. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Archiviste, directrice des archives hôtelières suisses, en quoi consiste votre profession et votre quotidien?
C'est classer des vieux papiers, c'est essayer d'identifier du mobilier, c'est aller sur des chantiers, c'est essayer de faire des plans de classement sur un ordinateur. Ça, c'est ce qui est plus facile à faire. Le reste du temps, je dois dire que un petit peu par vocation, un petit peu parce que j'aime ça, c'est surtout être sur les endroits. En tant qu'archiviste des archives hôtelières, je suis beaucoup dans les hôtels. Et puis dans les hôtels, c'est 24 heures sur 24, ça bouge tout le temps, c'est des paquebots, c'est donc il y a tout le temps une question, il y a tout le temps un journaliste qui a besoin de quelque chose, il y a tout le temps un meuble qu'il faut déplacer, un tableau qu'il faut savoir s'il a été, si on a abîmé une œuvre d'art ou si c'était juste une copie. Et puis beaucoup de gens veulent savoir qui était à l'hôtel, donc il y a des listes de clients, parfois, pas toujours. C'est jouer à Sherlock Holmes en étant parfois un chiffonnier et puis se reposer avec un panorama extraordinaire dans un 5 étoiles qui est fermé.
J'adore cette description, tout à fait parlante. Donc c'est bien loin d'un métier de bureau, vous êtes sur le terrain, c'est un métier, vous le disiez, trier des vieux papiers, j'imagine assez physique aussi, déplacer du mobilier, enfin c'est un boulot manuel quoi.
C'est manuel, je suis souvent très sale. En fait, j'étais 22 ans archiviste de la commune de Montreux. C'était très propre par rapport à ce que je fais maintenant. Et en tant qu'archiviste des archives hôtelières, je travaille pour des hôtels qui ont des archives dans des caves, dans des
altars. Donc ce sont eux qui vous appellent. Ce sont les hôtels qui font appel à vos services.
Ça se passe comme ça? Il y a plusieurs possibilités. C'est des hôtels qui appellent. Parfois, on sait aussi qu'il y a un hôtel qui va fermer. On les appelle, on leur dit, écoutez, on est là si jamais on peut vous aider. Ben là, il y a un exemple à Beckenried, l'hôtel Edelweiss, il y a quelques années en arrière, nous appelle en disant, voilà, ben, on n'a pas trouvé de successeur. Et puis, on a encore des archives. Est-ce que vous les voulez? Ah oui, on les prend volontiers. C'est combien? Oh, 2-3 cartons. Je vais avec ma petite voiture, je vais voir. Ben, on a envoyé un camion pour finir.
Ils étaient gros, les cartons.
Parce que c'était pas que des archives, mais il y avait du mobilier aussi. Du mobilier dont personne voulait. C'était des chambres des années 60, extraordinaires. Vous vous battez aujourd'hui pour avoir ce genre d'ameublement avec du sky, avec des lignes pures scandinaves.
Donc vous récupérez ça dans un hôtel de montagne, donc Beckenried. C'est pas seulement un travail d'archive. Au fond, vous êtes conservatrice, vous êtes historienne de l'art, puisque vous devez aussi peut-être estimer la valeur de ce mobilier. Vous faites ça?
Je me suis spécialisée en fait dans le mobilier hôtelier.
Oui.
Pour plusieurs raisons, parce que j'ai toujours aimé balader des vieux meubles, et puis ensuite parce que c'est un peu le parent pauvre des hôtels. Les hôteliers ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont comme mobilier. Souvent, quand ils veulent changer quelque chose ou qu'ils veulent vendre du mobilier ou que l'hôtel change de main ou qu'on refait, ils font appel à un brocanteur ou à un antiquaire et ces gens n'identifient pas correctement le mobilier hôtelier. Ça va mieux maintenant, certains savent, mais avant, on confondait souvent le meuble bon marché avec le meuble de style. C'est pas le meuble de style forcément qui fait partie du mobilier hôtelier. C'est ces trucs d'IKEA du début du siècle, qui sont des Tonnet, qui sont des Hoffmann.
Moi, ça me dit rien, mais j'imagine que ce sont des noms prestigieux.
Bah, c'est les IKEA de l'époque.
Ouais.
C'est tout. L'hôtelier, il a pas beaucoup d'argent, et puis le mobilier d'hôtel, il est mis à haute contribution. Donc, c'est les gens, c'est des centaines de personnes qui habitent dans ces meubles.
Comment vous venez à cette passion pour le monde hôtelier et donc mobilier aussi, Evelyne Lutigraff?
Je me suis demandé, ça doit être dans le sang, parce que ma grand-mère paternelle était femme de chambre dans les grands hôtels. Puis je me suis rendu compte, en Suisse et en Italie, et je me suis rendu compte, en regardant son parcours, parce qu'on a ses certificats, qu'en fait, sans le savoir, je suis allée dans les mêmes endroits où elle a été. J'étais archiviste de Montreux, elle a travaillé au Montreux Palace, alors qu'elle était argevienne. J'adore Stresa, elle a travaillé au Regina de Stresa.
Lac Majeur.
Sankt-Moritz est devenue une de mes bases avec le Bad Roots Palace. Elle a travaillé au Grand Hôtel à côté.
Non mais c'est télépathique, alors qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux ? Vous ne savez pas ?
Je ne sais pas, je ne l'ai pas vraiment connue parce que j'étais toute jeune quand elle est décédée. Mais mon père m'a raconté, on m'a raconté, et puis voilà, puis je crois que l'ADN a joué son rôle.
La Suisse est un pays d'hôtels, et partant d'hôtels de montagne, plus encore que d'autres pays alpin ou, disons, montagneux, France, Italie, Allemagne, Autriche?
Oui, je crois que les Suisses, bon, beaucoup d'autres historiens vous parleraient mieux de ça que moi, mais si je regarde un petit peu dans les connaissances générales, je crois que ces paysans de montagne, ils avaient rien d'autre à faire que d'essayer de trouver un autre débouché. Alors, il y a ceux qui sont partis, comme Ritz.
Ah, ça a bien marché pour lui.
Voilà. Puis il y a ceux qui sont restés, comme les Seiler, les Bad Roots, etc. Mais il ne faut pas croire, ceux-là aussi, à un moment donné, ils sont partis pour aller chercher les idées ailleurs. Et ils ont, en somme, exploité ce nouveau créneau. C'est une industrie, on appelait ça l'industrie touristique. C'était une industrie comme n'importe quelle autre industrie, c'était un gagne-pain.
Né au milieu du 19e siècle, aux alentours de 1840-1850, les premiers hôtels de Zermatt, comme l'hôtel Monte Rosa, d'où est parti Edward Whymper en 1865, ce sont des hôtels qui ont ouvert leurs portes vers les années 40 ou 50. C'est à peu près à ce moment-là qu'éclot l'hôtellerie, les grands hôtels qu'on appelle maintenant pour certains hôtels historiques, et l'hôtellerie de montagne. C'est 1845-1850. La révolution industrielle, ceci à cause de cela?
Beaucoup de choses, beaucoup de facteurs. Aussi le fait qu'à partir de 1848, la Suisse, elle est stable.
Ah oui, oui, c'est vrai que c'est une date importante.
Hein. Voilà, les gens croient toujours que c'est 1291, mais en fait, c'est 1848 qui fait vraiment la Suisse. Les barrières douanières, entre guillemets, entre les cantons vont tomber, parce qu'il y en avait quand même encore un peu. C'était pas facile pour des gens de passer à travers la Suisse. C'est quand même un paysage, un pays de montagne, de col, c'est aride. Alors à partir du moment où ces grands sportifs et ces grands parieurs que sont les Anglais veulent accéder aux montagnes, les autres vont suivre derrière. Et plus il y en a, plus les gens sont différents et plus les besoins se font différents. Au début, c'est des alpinistes, c'est des hommes, c'est des sportifs. Ils ont l'habitude de vivre avec une chemise, un pantalon, une paire de chaussettes. Mais à partir du moment où il y a des femmes qui commencent à voyager, on peut plus les mettre tous dans un dortoir commun, on peut plus les faire dormir comme ça sur des sacs de foin. Il faut un peu avoir quelques notions d'hygiène. Voilà, c'est la clientèle qui fait qu'il faut s'adapter. Et ceux qui s'adaptent le plus vite, c'est ceux qui se sont développés.
Ouais, donc ce sont les femmes qui changent la donne en matière hôtelière. Les vrais hôtels de montagne sont aussi dus à la présence des femmes qui se mettaient à traverser les Alpes et la Suisse?
Un peu quand même. On n'analyse pas suffisamment ça. Mais quand on lit le voyage à travers la Suisse de Jemima Morel...
Que j'ai sous la main, voilà.
Voilà, le voyage dans les Alpes, c'est le premier voyage Cook, c'est le premier voyage organisé.
1863, c'est Thomas Cook qui est une agence, ma foi, qui existe encore. Hein.
Absolument, c'est lui qui invente le voucher, c'est lui qui invente donc le voucher, vous vous baladez en présentant un papier qui indique que vous avez, entre guillemets, réservé, que vous avez droit à quelque chose. Et là, c'est un voyage que Cook fait, un espèce de voyage d'essai qu'il fait à travers la Suisse. Et il y a plusieurs femmes, et une jeune femme qui a la trentaine, Jemima Morel, va tenir un journal, truculent d'ailleurs, où elle fait ses commentaires. Et là, on se rend compte que les femmes, c'est une clientèle dont il faut tenir compte.
Oui, et encore maintenant, le bouquin, je l'ai sous les yeux, je peux le citer, c'est Voyage dans les Alpes de Jemima Morel, vous l'avez apporté aux éditions Cabedita, collection Archives Vivantes. On a l'impression qu'on est un peu revenu de cet apogée de cette industrie hôtelière et pas qu'en montagne. Vous me citiez Montreux, que vous connaissiez bien, vous en avez été l'archiviste. Montreux, en 1914, c'était 120 hôtels.
Oui.
Et aujourd'hui, un peu moins quand même.
Ah oui, beaucoup moins.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Beaucoup de choses.
Des guerres?
Beaucoup de facteurs. En fait, on dit toujours la Première Guerre mondiale. Oui, c'est la Première Guerre mondiale, puis la Seconde qui aura raison d'une grande partie de l'hôtellerie suisse. Il faut pas oublier que c'est pas que la seule chose, c'est le système en fait. Si une guerre peut vous mettre à genoux à ce point-là, c'est que votre économie, enfin votre manière de faire, elle est pas préparée à ça. Or, beaucoup d'hôteliers n'étaient pas du tout préparés à un arrêt aussi long. 14, 18, 4 ans, c'est beaucoup. Une année, deux ans, ils auraient pu tenir, mais pas plus longtemps. Pourquoi ? Parce que beaucoup de ces hôteliers, c'est des pionniers, c'est des bâtisseurs. Donc en fait, c'est des gens qui vont faire un hôtel, qui vont voir que ça marche bien, qu'il y a plus de clients, donc on va agrandir l'hôtel, donc il nous faut de l'argent. Donc on fait une souscription un petit peu plus grande, on prévoit encore un autre hôtel ou autre chose, on va chercher de l'argent. Avec ça, on va payer les factures qu'on a, parce que on a toujours un peu des factures. Et puis, quand on a commencé la construction du suivant, on peut pas la finir, donc on va lancer un troisième, chercher de l'argent pour ça, etc. C'est un peu on remplit les trous, et en 14, on a des gros trous.
Donc beaucoup disparaissent dès 14.
Oui, parce que à partir de 12, ils ont investi en masse. 12 était une année incroyable, des chiffres incroyables. 1912, c'était vraiment le top. Et beaucoup ont décidé de reconstruire des hôtels, de construire encore plus grands, encore plus d'hôtels.
Donc ils n'apprennent pas de leur erreur.
Non. Mais personne ne s'attend en fait à cet arrêt.
Evelyne Lutigraf, on va s'arrêter un petit instant dans votre récit passionnant, parce que précisément il se passe des choses dans un autre ouvrage d'art qui est un tunnel.
Infotrafic RTS.
Sur l'axe Chiasso-Lucerne, le tunnel du Gotthard, mais oui, est fermé totalement dans les deux sens. Un véhicule est tombé en panne dans cet ouvrage. L'embouteillage précédemment signalé à l'approche de l'entrée sud du tunnel atteint désormais une longueur de 10 km. On rappelle que nous sommes le week-end pascal, ce qui correspond à un temps d'attente de 2h10. Côté nord, une colonne est également en formation. Avant d'aller écouter Karen Anne, Evelyne Lutigraf, un mot quand même sur l'hiver et l'été. À la base, ces hôtels, au milieu du 19e siècle, ces hôtels de montagne, étaient ouverts d'abord pour l'été. Ensuite, arrive l'hiver. Quel est le déclic, à part les femmes peut-être?
Non, le déclic, c'est Sainte-Moritz. C'est les bas de route qui se rendent compte qu'il y a une clientèle pour l'hiver. Encore une fois, la personnalité des gens, des Britanniques, la personnalité des Anglais qui cherchent toujours un défi, qui cherchent toujours quelque chose de plus difficile, quelque chose à accomplir. Je rappelle que sous Victoria, c'est un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Donc c'est vraiment des pionniers déjà.
Mais ce sont les clients, ce ne sont pas les bailleurs de fonds.
Justement, ce sont les clients, mais c'est un peu le besoin en fait. on se rend compte que ces gens-là, ils sont prêts à prendre le parti de venir en hiver à Sankt-Moritz. Et il y a cette fameuse légende, parce que c'est une forme de légende, mais bon, à partir de... Toutes les légendes, elles ont un fond qui est véridique. Mais Johannes Badrout, le créateur de Sankt-Moritz et de la station d'hiver de Sankt-Moritz, aurait fait un pari avec les Anglais qui étaient là en été 1864, comme quoi s'ils revenaient en hiver et s'il n'y avait pas de soleil, ils leur payaient, donc ils pouvaient revenir gratuitement, et s'il n'y avait pas de soleil, ils leur payaient le voyage, ils les logeaient gratuitement. Et les Anglais sont revenus et il a fait magnifiquement beau.
Et il a parfaitement gagné son pari. Donc 1864, c'est le début du tourisme hivernal.
Oui.
Dans les Alpes.
Oui.
À Saint-Moritz, grâce à la famille Badrout. Le Badrout's Palace existe encore d'ailleurs. Je ne sais pas s'il est aux mains de la même famille. Vous nous le raconterez dans un instant et peut-être une anecdote aussi, parce que vous en avez des milliers. On va se contenter de quelques-unes. Une anecdote autour du terme de palace, précisément Evelyne Lutigraf. Et dans quelques minutes aussi, nous irons pas très loin de Saint-Moritz, un peu plus à l'ouest du côté de Sils Maria.
Dos contre dos dans des draps exquis, chambre sur rue embuée de whisky. Rien ne vaut ce lourd silence qui vient bercer mon imprudence. Tu m'as connu dans les bras d'un autre. Là, tu me connais au millimètre. La conscience peut m'embarrasser, mais je suis lâche. Je veux pas laisser ce regard.
Bleu, extrait du tout dernier album de Keren Ann, intitulé Bleu, voilà, au féminin. Album qui est sorti il y a quelques jours. Nous sommes avec Evelyne Lutti, grave jusqu'à 18h en direct dans Altitude, il est 17h23. Vous êtes la directrice des archives hôtelières suisses, totalement passionnée par ce métier à la fois un peu bureautique, mais surtout très manuel, et vous devez porter beaucoup de cartons, vous nous l'expliquiez tout à l'heure. On était sur la Haute-Engadine, on était sur l'histoire des Baderoutes à Saint-Moritz, famille qui a inventé le tourisme hivernal dans les Alpes. Le Baderoutes Palace existe encore, est-ce qu'il est aux mains de la même famille?
Il est toujours aux mains de la même famille, mais l'histoire elle a commencé au Kulm.
Là, on est en 1863 à peu près.
Voilà, exactement. C'est même avant. C'est même déjà dans les années 50 où Johannes Baderoutes achète un hôtel qu'il va agrandir, renommé Kulm. C'était l'hôtel Faller avant. C'est un petit hôtel. C'est un peu ce qui se passe partout. Les hôteliers, les premiers hôteliers, ils font autre chose. Seiler, les Baderoutes, ils ont tous fait autre chose avant. Baderoutes, il a repris le commerce en fait de fer et de bougies et de pétrole de son père, qui marchait pas bien. Et puis il se rend compte que, et ça c'est dans les années fin des années 40, et il se rend compte que en fait il y a une nouvelle industrie qui est cette industrie du tourisme qui commence à prendre pied en Engadine. Et il va acheter un hôtel avec sa femme. Ils ont déjà 4 ou 5 enfants à ce moment-là, ils en auront 8. Et sa femme le seconde toujours dans la gestion de cet hôtel. Et puis il va agrandir. Ça devient le Kulm, et à un moment donné, un des enfants, qui est Kaspar Baderoutes, va devenir autonome, va vouloir sortir en somme du giron familial, va aussi lui acheter un hôtel plus bas, le Beau Rivage, et au bout de quelques années, il va en faire le palace.
Le mot palace, alors on en parlait hors antenne, vous avez fait vos recherches, comme tant d'autres recherches, le mot palace, en tout cas dans les Alpes, voire même en Europe, naît là, à ce moment-là.
Oui, alors ça c'est une histoire qui est assez incroyable. Au moment de la construction de l'hôtel, donc entre 1895 et 1896, Kaspar Baderoutes cherche comment il va appeler son hôtel. Il veut l'appeler Kaspar Baderoutes Hôtel. Comme beaucoup de gens faisaient, on appelait on donnait à l'hôtel son propre nom, ou bien c'était Alpenblick, ou bien Beau Séjour,
il y en a quelques-uns des Kulm,
etc. Et tout. Et en fait, à ce moment-là, son fils, qui a une vingtaine d'années, est en train d'apprendre le métier à Paris. Il est à l'hôtel Chatham à Paris, et il y a une correspondance entre le père et le fils. Et le père envoie une lettre au fils en lui disant « Oui, alors je vais appeler mon hôtel comme ça, etc. » Et le fils répond « Écoute, en ce moment, ça discute beaucoup ici à propos de Maloya, du cours-salle de Maloya. »
Qui n'est pas très loin de Saint-Moritz. Hein,
absolument
c'est
pas.
C'est juste avant de redescendre le Val Bregaglia, là d'où venait notamment Giacometti. C'est voilà, ça, le col de la Maloya.
Exactement. Là, à partir de 1884, il y a un énorme hôtel qui s'appelle pas Palace encore, mais il y a un énorme hôtel, vraiment un de ces pionniers, un de ces hôtels qu'il faut être fou pour construire un bahut pareil en montagne. Bref.
Qui existe toujours, le Maloya Palace. Ouais.
Ça existe toujours. Et le Maloya Palace, il n'avait pas ce nom. Donc le Maloya Palace s'appelle Kursaal Maloya. Et il a fait faillite peu de temps après sa construction, il a passé dans les mains des investisseurs, etc. et tout. Et à Paris, il y a un groupe d'investisseurs qui, dans les années 90, se reforme pour relancer le palace de Maloya. Et Hans écrit à son père Kaspar en lui disant « Oui, alors j'ai entendu là à Paris les gens du Maloya qui pensent qu'ils vont peut-être appeler l'hôtel Maloya Palace. C'est peut-être pas mal comme nom. Tu pourrais peut-être appeler l'hôtel comme ça. » Et Kaspar lui répond par retour de courrier. Oui, alors Kaspar Baderoutes Palace Hôtel. Et Hans lui répond par retour de courrier. Écoute, non, c'est trop long. Peut-être juste Baderoutes Palace. Et c'est comme ça, en fait, que le Badrout Palace prend le premier, le nom de palace.
Maintenant. Le premier, donc,
probablement
dans les Alpes,
en Europe.
Oui. Premier palace en Europe.
Oui, premier.
C'est en montagne, c'est à Saint-Moritz.
c'est fou. Maintenant, on peut dire, oui, mais il y a beaucoup d'autres palaces qui ont pris le nom de palace, qui s'appellent palace et qui sont plus anciens.
Oui, mais ils ont pris le nom après.
Oui, parce que, en fait, beaucoup d'hôtels sont nés avant et après 1896 vont prendre le nom de palace. Parce que ça, c'est quelque chose dont on tient pas assez compte, mais le nom d'un hôtel, ça change très facilement. Parfois aussi, le propriétaire, il prend avec lui l'enseigne. Donc, vous avez un hôtel qui change de place.
Il prend même physiquement avec lui l'enseigne.
Il prend physiquement l'enseigne. Il la démonte. Ça, c'était les auberges, souvent. Pour prendre, en fait, la réputation avec. Ça change de bâtiment. Il revend l'hôtel de l'Ours. Il est revendu. Il est rebaptisé la couronne. Et puis, vous dites, c'est le même. Non, c'est pas le même. L'hôtel de l'Ours, il est parti ailleurs. J'ai dû chercher très longtemps à Kandersteg pour trouver, en fait, par quel hôtel Jemima Morrell avait passé. Parce que l'enseigne avait changé de bâtiment.
C'est dingue, ça. Voilà. Oui, là aussi, on est dans un rapport physique à l'hôtel. On démonte l'enseigne de ses propres mains pour la reboulonner sur un autre hôtel. Bon, un petit peu plus à l'ouest que Maloya et encore un peu plus à l'ouest que Saint-Moritz, il y a Sils Maria, on le disait dans les titres. Alors, c'est un endroit qui a inspiré beaucoup de poètes, d'artistes, d'intellectuels. Friedrich Nietzsche est le premier d'entre eux. Il est mort en 1900, donc il n'a pas connu la construction de l'hôtel dont nous allons parler et que vous connaissez évidemment, Evelyne Lutigraf, c'est l'hôtel Waldhaus qui est situé sur un petit promontoire rocheux à 1850 mètres d'altitude au-dessus de Sils Maria. C'est un hôtel dans lequel vous êtes allé plusieurs fois, j'imagine.
Ah oui, c'est une petite merveille.
Oui, on va pas vous démentir. Allez, on y va tout de suite et puis on va commenter ce qu'on en aura extrait dans une quinzaine ou une vingtaine de minutes. Le Waldhaus, donc sur les hauteurs de Sils Maria. C'est un 5 étoiles, mais c'est pas un palace, attention, c'est un 5 étoiles, inauguré en 1908, 8 ans après la mort de Nietzsche, bâtiment remarquable et fantasmatique au style Belle Époque. Il a la particularité, c'est pour ça que je posais la question par rapport au Badrutz, il a la particularité d'être toujours la propriété de la famille qui l'a fait construire, ce qui est très rare. Il est d'ailleurs en grande partie conservé dans son état original ou originel. Il a connu, on le disait dans les titres, une clientèle de choix. On peut citer Albert Einstein, David Bowie, Thomas Mann, Marcel Proust. On va tout de suite visiter ce joyau de l'hôtellerie de montagne avec Joël Rebeté qui s'est rendu sur place il y a quelques jours.
Bonjour. Hôtel Waldhaus.
Oui, bonjour.
Hôtel Waldhaus.
Oui,
Rebeté.
Bonjour.
Oui, enchanté.
Ok, une package.
Ok, vous avez une valise.
Non,
j'ai juste mon sac.
Je peux vous aider?
Merci.
Pour 20 minutes, Dan.
Yeah. Ok, perfect.
Hier.
Proche de Saint-Maurice. L'hôtel Waldhaus est proche de Saint-Maurice. C'est à Sils Maria. Et à Sils Maria, au-dessus, il y a une montagne. Beaucoup de montagnes, beaucoup de lacs. Très beau.
Sie lieben hier zu arbeiten.
Ja.
Oui.
Oui.
Mais la météo, c'est pas vraiment ça. Il ne fait jamais très chaud. Même en été, le thermomètre dépasse rarement 20 degrés. Oui, c'est comme ça.
Je suis dans la voiture qui m'amène à l'hôtel Waldhaus. La route est sinueuse. Tout autour de moi, de la neige, parce qu'on est au mois d'avril, mais ici, il fait encore froid. On distingue les lacs gelés, recouvert de neige et tout autour des montagnes qui les encadrent.
Le Waldhaus, c'est un hôtel de compromis. Il est près de Saint-Moritz, mais pas à Saint-Moritz. Donc Saint-Moritz, la grande station, avec toute la vie et tout. Nous sommes dans un petit village, un peu à l'écart, mais tout de même, ça fait partie de la région de Saint-Moritz, un peu comme si on était dans une banlieue assez prestigieuse, d'une belle ville. Donc, un dépend de l'autre. Je suis Urs Kinberger, dans un hôtel où les fondateurs avaient un autre nom, et ceux qui le gèrent aujourd'hui, eux aussi, ont un autre nom. Et tout de même, on est toute une même famille, en ligne directe. Mes arrière-grands-parents, c'était les parents de ma grand-mère, Ils construisaient cet hôtel quand ils avaient plus que 60 ans. Et c'était une rêve de leur vie de se construire un hôtel à eux-mêmes. Ils étaient des directeurs d'hôtels pour des décennies, mais des hôtels qui appartenaient à d'autres. Et maintenant, ils avaient réalisé leur rêve.
Quel est ce pari fou au siècle passé de vouloir construire un hôtel d'une grandeur pareille au fond d'une vallée? Ils étaient un peu dingos, non?
C'était plus normal que l'on ne pense de notre perspective. L'hôtel a ouvert ses portes en 1908. Le temps entre 1850 et le début de la Première Guerre mondiale, c'était un grand essor du tourisme en Suisse. La Suisse est un peu comme le Dubaï d'aujourd'hui ou quelque chose. Il y avait tout qui était possible. Il y avait des douzaines, des centaines de grands hôtels qui se sont construits. Les gens du monde voyageaient moins, mais presque chacun qui voyageait finissait aussi par venir en Suisse. Naturellement, c'était là. Il fallait de l'argent. C'était une bourgeoisie, c'était une aristocratie, et pas nécessairement les gens de tous les jours. Mais il y a une chose qui a défini Sils Maria, tout le village, toute la station, depuis longtemps, c'était les intellectuels, les artistes, les créateurs. Et je crois que cela dépend en bonne partie du patron de notre village, qui est Saint-Frédéric, donc Friedrich Nietzsche, qui était là dans les années 80 du 19e siècle, qui n'avait rien à faire avec l'hôtel. Mais je crois que d'une façon ou d'une autre, c'est lui qui a fait la réputation du village. Et c'était une réaction de chaîne. Que si vous avez les uns qui viennent, il y a les autres qui les visitent, etc.
Donc là, on va à la salle de lecture.
On passe par un corridor qui, un jour, se trouvait à Zurich. Il y a un film qui a été tourné en partie chez nous, et qui s'appelait justement Sils Maria. C'est un film d'Olivier Assayas avec Juliette Binoche dans une des rôles principaux. Et une scène se joue à Zurich, mais pour faciliter les choses, ils ont tourné l'intérieur ici au Waldhaus. Donc ce corridor, un jour, était à Zurich.
Caroline ?
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Valentine.
Bonjour.
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 Merci d'avoir accepté, je me doute que c'est pas évident pour vous.
Ouais, voilà, super. Ok, tu peux l'allumer.
Je te présente Bernd.
Ah, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous rencontrer.
Moi de même.
Tu sais, les photos bien trash de Lindsay Lohan que je t'ai montrées, c'est lui le coupable.
J'essaierai de faire plus élégant aujourd'hui.
On y est presque. C'est la salle de lecture, ou avec un mot qui me plaît encore mieux, qui est un peu peut-être exagéré, le cabinet de lecture. Vous avez dans beaucoup de beaux hôtels quelque chose qui s'appelle la bibliothèque ou le salon de lecture ou quelque chose, mais souvent c'est un endroit où vous avez des séminaires, des banquets, etc. Nous, on insiste que c'est vraiment pour lire et écrire. Même s'il y a seulement une personne qui s'y trouve et que tout le reste de l'hôtel est plein, on n'emploie pas pour d'autres choses. Le mobilier et le tout reflètent aussi un peu l'histoire de l'hôtel. Par exemple, les bureaux, les pupitres, qui étaient là depuis 1908. Il y a des fauteuils qui sont plus récents. Il y a beaucoup de livres. On n'a jamais assez de place pour tous nos livres. Il y a les boiseries qui sont du noyer. Et surtout, à l'extérieur, on voit la forêt qui a donné le nom à l'hôtel. C'est vrai que le nom, la maison de la forêt ou dans la forêt, c'est approprié et c'est aussi tout un programme. Parce que facilement, ils auraient pu l'appeler Grand Hôtel-ci ou Palace-là, mais ils ne faisaient pas. Ils parlaient du Waldhaus. Il a été placé avec énormément de soin au milieu de ces montagnes. Et les gens, naturellement, ne viennent pas seulement pour nous, mais ils viennent pour les montagnes. Donc c'est une belle tension. Que vous avez ce bâtiment un peu urbain qui est placé au milieu des montagnes, c'est un de ses atouts, cette tension qui vient de ce contraste.
Je crois savoir, mais vous allez peut-être m'expliquer l'histoire, que l'un des premiers combats de feu Franz Weber a été celui de combattre l'implantation d'un complexe immobilier pas très loin d'ici.
Il y a eu beaucoup d'efforts au cours des années pour essayer de freiner le trop de construction dans la région. Il y a 60 ans, il n'y avait presque pas de maisons à Surlay. Surlay est sur la plaine où commence le téléphérique du Corvatsch, et puis on voulait construire tout. Et Franz Weber s'est engagé farouchement avec les autres pour pouvoir canaliser cette construction. Et puis à Sils, c'était le problème classique de la Suisse, que la forêt était protégée depuis longtemps. Mais la plaine entre les deux lacs de Sils et Silvaplana, qui est belle et ouverte, là, il n'y avait pas de règles. Donc en principe, on aurait pu construire un peu partout. Et c'est dans les années 70 que, avec l'aide de Franz Weber, de la Confédération, et aussi avec beaucoup de support local, une grande partie de cette plaine a été libérée de ce danger. Alors, on passe le même corridor zurichois pour trouver l'escalier de service. Autrefois, il y avait toujours deux ascenseurs. Et un des ascenseurs, l'ascenseur de service, était comme dans une cage au milieu de l'escalier de service. Et à chaque étage, on pouvait voir la nature. Donc, on avait la vue de l'extérieur. Et en passant du bas d'en haut, vous avez toute la séquence des vues qui vous portait jusqu'au sommet de l'hôtel.
Wow.
C'est une belle chose. C'est une chose qui est perdue maintenant. Pas la vue, mais l'ascenseur. Et voilà.
Ah oui. Oh là là.
Donc on est au mezzanine. Les grands salons, les salles de l'hôtel ont la hauteur de deux étages. Et là, il y a encore un entresol au-dessus. Et c'est dans cet entresol qu'il y avait quelques chambres pour nous comme famille. On n'avait pas un vrai appartement, mais seulement quelques chambres. Donc, il y avait des fenêtres dans toutes les directions où on pouvait voir ce qui se passait dans l'hôtel.
Donc là, concrètement, qu'est-ce qu'on voit à travers les rideaux ?
On regarde dans la salle à manger. Et donc, c'est presque symbolique. On a notre enfance et notre vie, en effet, est passée dans l'hôtel, mais on ne fait pas vraiment partie de l'hôtel. Nous ne sommes pas des hôtes, nous ne sommes pas du personnel non plus. On observe les autres et on essaie de faire la régie.
Dann Eisberg mit Sausend Island Dressing ist klar. Dann hätten wir das, die rosa Scheiben vom einheimischen Kalbskarree mit Estragon Buttersoße, bunten Karottengemüse und gebratenen Servietenknödel. Wenn ihr es laktosefrei haben wollt, wäre es möglich mit Jus. Könnt ihr laktosefrei bestellen?
Cette séance, elle a lieu tous les soirs.
Oui, tous les soirs. Oui. Chaque fois. Avant le menu, on fait le menu. Il y a le chef cuisinier qui vient expliquer le menu. Puis c'est moi qui fais les vins. Et puis il y a le maître d'hôtel qui donne les dernières informations sur les allergies ou sur les tables.
Mit Salatbündel, aber Laktose und Gluten hat beides enthalten in der Kiel.
Vous allez faire quoi maintenant?
Maintenant, je vais éclairer les vins. Les vins qui vont avec le menu.
Il faut descendre à la cave. Ça, c'est la clé de la cave. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont.
Alors, moi, j'ai envie de vous demander la bouteille la plus prestigieuse que vous avez dans la cave. Vous pouvez me la montrer?
La plus prestigieuse qu'on a dans la cave, comme valeur et comme rareté, c'est la Romane Conti 2009.
Waouh! Oh là là!
C'est à la cave, mais c'est pas, pour le moment, c'est pas sur la carte. Il est encore un peu jeune. C'est un vin oui, très rare, très bon et très cher aussi.
Très cher.
Très cher. Et alors, je le remets à sa place, bien caché. Hein.
Ouais, je vois, c'est au fond de la, tout au fond
c'est
de la
tout
cave.
Tout au fond de la cave. Mais je change la place, hein, ne vous préoccupez pas. Hein.
D'accord.
Comme ça, la prochaine fois.
Si je reviens, elle n'est
si,
pas là.
Si vous avez les clés quelquefois, vous ne devez pas la trouver là-bas. C'est comme. Ils ont besoin de moi. Oscar? 3,50. Va bien, te le mando subito. Quand ils ont besoin, ils appellent.
C'est bien. Ça marche.
C'est bien qui je suis là, comme d'habitude. 150. Là, on est en train de chercher un vin. Voilà. Et là.
Est-ce qu'il y a un vin là que vous pouvez me montrer qui vient d'ici? Dimanche, c'est un jour de Pâques.
Oui.
À Pâques, dites-moi si je me trompe, on mange de l'agneau.
Si,
voilà.
Oui.
Alors, avec l'agneau, qu'est-ce que vous proposez dans votre cave?
Chez nous, le vin de la région, c'est aussi le vin de la Valtellina.
Valtellina?
Oui, c'est la vallée à côté. On peut boire un Pinot Noir barriqué de Grison ou un Valtellina, comme avec un agneau, un sforzato.
Sforzato.
Sforzato, oui. Le sforzato, c'est avec l'amarone, le seul vin fait sur paille.
Sur paille?
Oui, on va laisser sécher les raisins pendant 2-3 mois après le vendage. Okay. En cette façon, on perd le 20-30% de l'eau. Et le vin, il reste un peu plus concentré.
Sucré aussi?
Pas trop, parce que là, c'est du Nebbiolo, il a toujours une bonne acidité.
En fait, plus généralement, ici, dans cette vallée, il y a tout. Il y a un hôtel magnifique, il y a la nature,
oui.
Il y a
les Pinot Noirs des Grisons, il y a le Nebbiolo de la Valtellina, si, il y a pas mal de belles choses, oui.
Il n'y a aucune raison de partir?
Non, ça fait 26 ans que je suis là, je pense. Pour moi, non. J'aime la montagne, j'ai grandi dans la montagne, j'ai besoin de ces contacts avec la nature.
Vous y allez?
D'accord.
Oui.
Ok.
Ah voilà. Ouh là là. Ah oui. C'est magnifique. Hein.
Oh. En grande partie, c'est encore le 1908 que vous rencontrez ici. C'est une chambre qu'on peut aménager comme salon, donc salon privé, mais on peut être aussi, comme c'est fait maintenant, pour cette arrivée d'aujourd'hui, elle peut aussi être une chambre d'hôte normale. Donc pas exactement normal. Elle est assez grande, elle a quelques 45 mètres carrés, et elle a une cheminée dans le coin. C'est une vraie cheminée, mais nous l'employons plus parce qu'on veut tout de même préserver l'hôtel sans trop de risques. Les meubles ont un style, ça c'est vraiment de 1908, vraiment du style Art Nouveau. Et surtout, ce qu'il y a encore, c'est une salle de bain de 1908 aussi.
Oh là là! Oh, oh c'est magnifique!
On se croirait dans un film. Hein.
Oh là, la vieille baignoire aussi.
C'est vrai, ce n'est pas une chose que tout le monde voudrait. Parce que naturellement, il y a des choses plus pratiques qu'une salle de bain qui fait 111 ans. Mais nous avons mis une belle douche moderne. Et on a essayé de refaire, de restaurer tout. Donc, il y a 3 de ces salles de bain qui restent encore.
Et ça, les clients, ils viennent pour ça aussi, pour en fait se transporter dans une autre époque?
Il y a beaucoup de raisons différentes pour venir. Et les uns viennent pour se flair de l'ancien. Mais peut-être une grande majorité même ne viennent pas pour cela, parce qu'ils veulent simplement avoir du confort moderne. C'est plutôt notre tâche, je crois, de se battre un peu aussi pour l'ancien, pour maintenir cet esprit ou ce sentiment que vous n'êtes pas dans un bâtiment qui date d'aujourd'hui. Il doit rester pratique et confortable, mais ce serait dommage, comme dans un village, si le passé disparaissait entièrement. Et c'est facile à y arriver, parce qu'il y a toujours quelque chose qui se rend, qui ne fonctionne plus tellement. Vous changez une chose par-ci, une chose par-là, et un jour vous retournez, il n'y a plus rien qui reste. Peut-être quelques formes, mais elles ont toutes été modernisées ou refaites comme si elles étaient d'aujourd'hui.
En fait, c'est ça votre plus grand défi, c'est de garder l'histoire tout en étant moderne.
C'est vrai, mais ce n'est pas seulement les hôtes qui insisteraient de changer. Peut-être eux, le moins, mais aussi les employés qui veulent une vie pas trop compliquée, pas trop... si vous pensez aux fenêtres, par exemple, si vous avez des vieilles fenêtres à double battant, oui. Alors, il faut 2 fois le travail pour les nettoyer.
Io sono Olga.
Je suis Olga, je viens du Portugal, je suis déjà là depuis 1995, mais pas seulement ici au Valdaos. J'ai été 2 années à Saint-Moritz, puis 2 ans à Maloya. Et depuis ce moment-là jusqu'à maintenant au Valdaos. J'aime ce que je fais, nettoyer, organiser, ranger. C'est ce qui me plaît depuis toujours. À la maison aussi, j'aime faire ça. Et vraiment, c'est le travail qui me correspond. Et il y a tant de types de clients. Il y a ceux qui arrivent et qui mettent tout en ordre. Et nous, dans ce cas, on touche le moins possible aux affaires personnelles. Et il y a ceux qui font du désordre. Ils sont comme ils sont, et nous, on fait un peu comme on peut. Il y a des affaires par terre, on les pose sur le sofa ou sur le divan. Nous, on le comprend tout de suite quand c'est un bon client. Il sait respecter notre travail, il ouvre la fenêtre. Et ainsi, quand nous, on rentre, on a un air plus propre, plus respirable. Il y a une vue magnifique. Oui, un grand balcon, comme on le voit. Il y a le paysage jusqu'au lac. C'est très beau.
Bene.
Souvent, si les clients arrivent qui ne nous connaissaient pas encore, on voit qu'ils sont un peu déçus, peut-être. En partie aussi parce que notre idée du passé est souvent romantique, c'est victorien, avec beaucoup de décorations et tout. Mais cet hôtel, qui était plus récent de ce point de vue, 1908, il y avait déjà une certaine sévérité, une austérité helvétique aussi. Nos ancêtres, c'était des hôteliers passionnés, mais ils ne voulaient pas construire un palace. Un hôtel de luxe, oui, mais pas un palace.
Vous m'avez dit que vous êtes économiste. Comment est-ce qu'on fait, en fait, pour maintenir une tradition hôtelière ? Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres défis, l'hôtellerie a beaucoup changé, les clients ont d'autres habitudes. Comment est-ce qu'on reste encore et toujours un hôtel incontournable ?
Il y a 2 réponses possibles. Vous pouvez trouver ce que les hôtes veulent et puis essayer de l'offrir. Une autre approche, c'est de trouver ce que vous voulez, vous, et d'essayer de convaincre les autres. Je suis sûr que c'est la même chose pour votre domaine comme pour le nôtre. Vous pouvez faire des émissions qui simplement reflètent ce que vos auditeurs attendent. Et vous pouvez aussi essayer de les surprendre. Mais c'est un défi, parce que vous pouvez facilement vous trouver tout seul.
Et là, nous rouvrons les yeux. Tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on n'est plus dans un très bel hôtel de montagne, mais dans un studio de radio en direct à 17h51 dans Altitude. Toujours en compagnie de notre invitée, la directrice des archives hôtelières suisses, Evelyne Lutti-Graf. Magnifique reportage de Joël Rebotet à la réalisation Jérôme Nussbaum. À quoi pensiez-vous en écoutant ça?
Ah, Ours, il est magnifique. J'ai la chair de poule quand il dit ce qu'il dit, c'est-à-dire il faut savoir ce que les clients y veulent et puis on peut essayer de leur proposer aussi quelque chose. C'est la classe.
Est-ce que la réussite de cet établissement tient aussi et peut-être surtout au fait qu'il soit en main familiale depuis le début ?
Complètement. Complètement. Il fait partie intégrante. Enfin, le bâtiment et la famille ne font qu'un. Et quand vous rentrez dans un hôtel de ce type-là, vous le sentez. C'est tout le personnel, c'est tout, la famille est présente, tout le monde. Vous faites partie de ce monde et c'est ça qui
ça
fait
ça manque
vous...
un peu à l'hôtellerie suisse, cette tradition familiale.
Oui, bien sûr, c'est pas leur faute souvent parce que l'économie est difficile, mais c'est vrai que là où dans ce genre d'hôtel, vous le sentez et vous revenez, peu importe combien coûte une chambre.
Plusieurs centaines, voire un peu plus, mais ça les vaut bien. Parmi les clients, on l'a mentionné brièvement, il y avait cet homme-là.
lights, taking you nowhere. Sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Come, brother, baby. There's my feet, I lost, that's all. Hopes I'm begging you, save a little soul. Come, brother, baby. Last night they loved you, opening doors and pulling some strings. Didn't walk luck and you looked in time. Never looked back, walk tall, act fine. Come, brother, baby. I'll stick with you, baby, for a thousand years. Hope there's more to touch you in these golden years. Golden years. And it won't be long. Gonna drive back down where you once belonged. In the back of a dream car, 20 foot long. Don't cry, my sweet, don't break my heart. Doing all right, you've gotta get smart. Wish upon day, I believe, oh Lord, I believe all the way.
Golden Years, extrait bien sûr du mythique album Station to Station, David Bowie, 1976. C'est à peu près à ces années-là que l'artiste anglais, voire britannique, séjourne dans ce très bel hôtel. Il en a fréquenté d'autres. Pourquoi les gens comme Bowie vont dans des lieux comme le Waldhaus, Evelyn Lutigraff? Qu'est-ce qu'ils viennent y chercher, peut-être y trouver?
Le calme. Le calme. La Suisse, elle a quand même une réputation que vous pouvez être dans un endroit et même en étant une célébrité mondiale, on vous laisse tranquille. Parce que le Suisse, il est un peu discret, il a un petit peu un complexe d'infériorité. Donc en fait, on les touche pas. Si vous vous baladez à Montreux pendant le festival de jazz, c'est tellement frappant. Vous pouvez aller, je me suis retrouvée plusieurs fois à la pharmacie, dans les magasins, avec des gens qui attendent leur tour, puis qui sont des célébrités mondiales, puis tout le monde tourne la tête. Il y a personne qui vient les embêter. Donc c'est vrai que ces hôtels, ils ont de la chance. Parce que c'est un espèce de microcosme où l'artiste, il peut être tranquille.
Plus de la moitié des hôtels de luxe en Suisse appartiennent désormais à des investisseurs étrangers. Vous confirmez cette statistique?
Si la statistique le dit, oui, oui.
Comment on l'explique? Les banques suivent plus? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Quel est le mécanisme à l'œuvre là?
Mais beaucoup de choses. Avant, l'hôtellerie, c'était une histoire familiale. Mais
on y revient.
Voilà. Mais pour l'histoire familiale, il faut une relève. Il n'y a pas de relève, donc à un moment donné, il n'y a plus de relève, il n'y a plus personne qui veut s'occuper. Et puis, un hôtelier, c'est comme entrer au couvent. Il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de congé.
Comme vous.
Oui, mais c'est vrai que tout le monde ne veut plus faire ça aujourd'hui. La société, elle a évolué, les jeunes n'ont plus voulu. Et puis, les hôtels se sont vendus, et puis il y avait des investisseurs. Puis les investisseurs, ils ont des chiffres. Il faut qu'ils fassent du chiffre, il faut qu'ils fassent des recettes. Les investissements doivent rendre, et puis voilà. Et puis, l'histoire de la banque, c'est encore autre chose. Après la Deuxième Guerre mondiale, dans les dernières années de la Deuxième Guerre mondiale, entre 43 et 46, il y a eu une analyse, la Confédération a demandé une analyse de l'hôtellerie suisse. Et on a défini à ce moment-là quelles étaient les zones qui seraient protégées, les zones où on peut continuer à faire de l'hôtellerie, puis les zones où il faut arrêter. Et beaucoup d'hôtels ont dû être vendus, ont dû être transformés. Il y a même des hôtels qui ont été dynamités.
Mon Dieu, on ne ferait plus ça aujourd'hui.
Non.
Votre actualité, Evelyn Lutigraff, si je puis dire, elle tourne aussi autour du Grand Hôtel des Races, donc c'est au pied du Chasseron, canton de Vaud, au-dessus d'Yverdon, en gros, magnifique bâtiment, un des hôtels historiques de Suisse aussi. Vous y avez réinstallé une chambre, expliquez-nous qu'est-ce que vous y avez fait là.
Oui, en fait, le Grand Hôtel des Races nous a fait appel à nous pour essayer de lui redonner le lustre Belle Époque, parce qu'il a un potentiel incroyable, il l'avait, il l'a toujours, et maintenant il le revalorise aussi. Il a eu ses 120 ans l'année passée, et puis pour ses 120 ans, on a réinstallé des chambres historiques qui sont presque prises d'assaut. On a en fait pris le parti d'assumer nos vieilles pierres, d'assumer les vieilles pierres, d'assumer les vieux sols, d'assumer les vieux plafonds, d'assumer les vieilles salles de bain, les vieilles chambres, mais d'expliquer pourquoi elles sont comme ça. Et puis de rénover en fait que peu à peu, comme ce qui se faisait à l'époque, parce que la grosse rénovation marteau où on rénove 50 chambres en même temps, ça c'est ça qui peut-être qui a joué le tour aux hôteliers et qui a fait que les banques les suivaient plus.
Donc les gens du Waldhaus avaient raison de vouloir préserver les choses.
Oui, complètement. Et c'est parmi les premiers à l'avoir fait aussi. Il faut assumer ça. C'est notre patrimoine. C'est un peu comme nos rides, nos cicatrices. C'est la même chose. On les assume. On peut pas tous faire un lifting. Souvent, quand on fait un lifting, le résultat est pas terrible.
Allez, dernière question rituelle. Je vais pas vous demander quelle est votre montagne préférée, comme à tous les autres invités, mais votre hôtel de montagne préféré à vous, Evelyne Lutigrave, vous avez 25 secondes pour y répondre.
J'en ai deux. L'Engadine, parce que je l'ai découvert, puis parce que ça fait très longtemps que je suis là-bas, donc le Bad Roots Palace.
Premier.
Et puis le petit dernier, qui est le Grand Hôtel des Races, c'est une petite merveille. Et puis quand vous regardez le paysage là-bas, puis que vous voyez du Mont Blanc jusqu'à la Jungfrau, la mâchoire, elle vous tombe, c'est tout.
C'est vrai que le paysage est tout à fait formidable là-bas. Je vous conseille d'y monter. Merci infiniment. C'est passionnant. On aurait pu rester encore 3 ou 4 heures avec vous, au moins. Merci, Evelyne Lutigrave.
Merci beaucoup.
Bonne fin de dimanche pascal et à bientôt.
Merci.
Altitude, retour momentané, en pleine.
Infotrafic RTS.
Avec le parc Aventure au signal de bougie et ses tyroliennes, parcaventure.ch.
Aucune perturbation n'est actuellement signalée sur les routes de Suisse romande et sur l'autoroute Cassau-Lucerne. Une colonne de 10 km est toujours observée au portail sud du tunnel du Gothard. Le temps d'attente correspondant est de 2h15. Bon courage.
Infotrafic RTS en collaboration avec les CFF et le TCS.
Un tout grand merci, comme chaque dimanche, à ma complice Mallory Lang qui m'a aidé à préparer cette émission, à la technique Christophe et Séva, à la réalisation, magnifique réalisation, Jérôme Nussbaum, programmation musicale François Piton. J'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche prochain en direct pour Altitude à 17h.
La première vous offre l'heure.
Il est très précisément 18h.